À toi.
Merci Marc. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous demander de rester concentré. Vous allez entendre parler de choses que vous connaissez déjà. Je vais utiliser des schémas que vous avez sûrement tous déjà vus. Mais la Bible dit que nous devons rester comme des petits-enfants. Et il sait pourquoi. C'est parce qu'aux petits-enfants, on a besoin de répéter et répéter et répéter jusqu'à ce que les choses soient bien comprises. Alors aujourd'hui, on va encore répéter, encore. Mais il y a sûrement quelque chose que vous n'aviez pas saisi, vous allez le saisir ce matin, dans le nom de Jésus. Alors on va commencer par un verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, 23, si vous voulez prendre la parole. Je suis désolée, je n'ai pas envoyé mes versets. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on va parler de esprit, âme et corps. D'accord ? Alors, vous savez sûrement, nous sommes des êtres tripartites. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu, tripartite, trois parties. Nous sommes composés de trois parties. La première partie, notre corps qui est composé, lui, de matière organique, exactement comme Adam. Adam n'était pas composé d'autre chose, le corps d'Adam était composé de matière organique, exactement comme nous. Et ce corps sert de vase, de contenant physique, pour contenir les deux autres parties. Ce corps physique, ce vase, ce vêtement, le pasteur dit souvent, c'est comme un gant, c'est juste un vêtement, c'est juste un contenant. C'est comme le vase des fleurs. D'accord ? Donc notre corps, c'est un vase. Rien de plus. Rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire que mon corps ne peut pas exiger quoi que ce soit de moi. C'est juste un corps, c'est juste une enveloppe, c'est juste un vêtement. Il n'a pas de droit, il a des besoins que je dois... pour voir, certes, mais il n'a pas de droit, je n'ai pas d'obligation envers lui. C'est juste un vêtement. Notre corps est donc physique, c'est-à-dire qu'il est visible. On peut le voir, on peut le toucher. Il fonctionne et répond aux cinq sens. D'accord ? C'est-à-dire le goût, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Grâce à ce corps physique, nous sommes connectés au monde qui nous entoure. Grâce à ces cinq sens, on est sensible au monde qui nous entoure. On peut toucher, entendre, sentir, voir et goûter presque tout ce qui nous entoure. D'accord ? Dans le monde physique, on est connecté au monde qui nous entoure par notre corps. Je marche sur la terre avec mon corps. D'accord ? Ça répond au même... On est connecté par nos cinq sens. Donc ça, c'est une des parties, des trois parties dont on a parlé. La deuxième partie, c'est notre âme. L'âme, c'est le siège de nos émotions, de notre imagination, le siège de nos affections, de notre volonté, de notre intelligence, de notre mémoire aussi. C'est là, notre âme, c'est ce qui nous caractérise. C'est là que l'on pense, que l'on réfléchit, qu'on évalue une situation et qu'on décide. D'accord ? Ça, c'est notre âme. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a tous une âme. Et pourtant, on ne voit pas cette âme. D'accord ? Mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle existe, puisque personne ne viendrait prétendre aujourd'hui que l'intelligence n'existe pas, que la mémoire n'existe pas. Donc ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas. Notre âme, on ne la voit pas, mais elle existe. On peut parler à son âme. Vous saviez qu'on peut parler à son âme. On peut toucher une âme. Alors on ne peut pas la toucher physiquement, certes, mais il y a plusieurs manières de toucher quelque chose. On peut toucher physiquement, mais on peut toucher verbalement. Donc on peut parler à son âme. On peut avoir une connexion, une vraie communication avec son âme. Vous pouvez, si vous allez voir un film d'horreur, par exemple, vous pouvez toucher votre âme, vous pouvez affecter votre âme, vous pouvez ressortir en ayant même jusqu'à des traumatismes. Vous pouvez traumatiser votre âme. Mais à l'inverse, vous pouvez encourager, exhorter votre âme. La vue aussi peut exhorter votre âme. Une magnifique coupe de glace va ravir l'âme des gourmands. Et le corps. Écouter un opéra va ravir l'âme des mélomanes. Voir un magnifique tableau ou une exposition va ravir les amoureux de la peinture. Bref, on peut communiquer avec son âme de différentes manières. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir, mais on peut quand même communiquer. Donc on peut donc de manière différente communiquer. C'est ce qui se passe. C'est heureusement qu'on peut communiquer avec elle, d'ailleurs, parce que quand on a une décision difficile à prendre, par exemple, comme c'est là que nous prenons nos décisions, il faut qu'on puisse discuter avec notre âme. Si on la laisse faire, notre âme, elle va reculer d'effroi parfois devant une décision compliquée à prendre. Et là, on a vraiment besoin de s'exhorter, de la nourrir de quelque chose de particulier. Il faut parler à son âme. Bref, on parle à son âme. Pour résumer, on ne voit pas son âme, mais elle existe. Donc si nous, notre corps, on vient de voir, si nous, notre corps nous permet d'être conscient du monde qui nous entoure, notre âme, elle, nous permet d'être conscient de quoi ? Bah, de nous-mêmes. L'âme, ça nous sert aussi à être conscient du grand moi. Troisième partie de cette... oui. Troisième partie, donc on a vu le corps, on a vu l'âme, maintenant voyons l'esprit. Esprit, âme et corps. L'esprit, c'est pareil, on ne le voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. On est habitué à réagir aux choses physiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Nos cinq sens nous prouvent l'existence de beaucoup de choses, mais nos cinq sens ne nous prouvent pas l'existence de l'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. L'esprit est tout aussi tangible. On est entouré d'un monde spirituel. Alors, ce matin, c'était l'illustration parfaite. Pendant la louange, on a tous pu constater à quel point le monde spirituel est tangible au milieu de nous. On a tous pu constater la présence de Dieu ce matin. On ne voit pas les anges, on ne voit pas Dieu, mais tous nous avons pu constater sa présence ce matin. Donc il y a un monde spirituel qui nous entoure, qui est tout aussi réel que le monde naturel qui nous entoure. D'accord ? Donc l'esprit, si on ne le voit pas, il existe et nous en avons vu l'illustration ce matin. Donc alors que le corps constitue notre être extérieur, ce qu'on appelle notre être intérieur, contenu dans ce corps, est donc composé de l'âme et de l'esprit. C'est la partie spirituelle de l'homme, ma partie spirituelle, contenue dans ma partie charnelle. Notre corps nous permet d'être conscient du monde, notre âme de notre personnalité, et notre esprit alors, il nous permet de quoi ? Ben, d'être conscient de la présence de Dieu. Notre esprit est en relation directe avec le Père. C'est lui qui nous permet de reconnaître la présence de Dieu. C'est lui qui nous permet de nous saisir du monde spirituel qui nous entoure. C'est lui qui nous permet d'adorer Dieu. La parole le dit. Adorons. Nous ne pouvons adorer Dieu qu'en esprit et en vérité. Il y a des choses il y a des communications, il y a des relations, une relation qu'on ne peut avoir Dieu que par l'esprit. On ne peut pas adorer Dieu avec son corps. On ne peut pas adorer Dieu avec son âme. Quoique. Mais la parole le dit, c'est par l'esprit qu'on adore Dieu. C'est le seul canal par lequel on peut le faire. La partie la plus importante de notre être est l'esprit. Comme dans le lieu très saint, comme le lieu très saint dans le temple était la partie la plus importante. Pourquoi est-ce la partie la plus importante ? Parce qu'après tout, on peut se dire, j'ai un corps qui contient mon âme et mon esprit, mais bon, l'âme et l'esprit ne vont nulle part sans mon corps. Donc pourquoi l'esprit est la partie la plus importante ? Sans mon corps, on va nulle part. Ben, tout simplement parce que ce qui me caractérise est composé de trois choses, l'esprit, l'âme et le corps, mais je ne peux pas dire que ce que je suis, c'est mon corps. Mon corps, quand je le regarde dans un miroir, selon le miroir que j'utilise, il peut être déformé. Déjà, rien que dans ces miroirs-là, qui ne sont pas des miroirs déformants, il y a un filtre dessus. Donc moi, je sais très bien que je n'ai pas cette couleur jaune. Donc là, déjà, d'entrée, je sais que le miroir, si je me regarde dedans, l'image que je vois ne me caractérise pas. Elle est déjà tronquée ce matin. Sans compter que, ben, on peut changer. On prend... Les signes de la maturité peuvent venir, parfois, altérer une image que nous avions de nous-mêmes. Voilà, on peut maigrir, on peut grossir, on peut changer de couleur de cheveux, on peut changer de style, changer de maquillage. Bref, notre corps est susceptible de changer. Il est sujet au changement. Donc, ce n'est pas une valeur sûre pour me caractériser. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes plus les mêmes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Donc on ne peut pas dire, si on avait pris une photo de vous il y a 20 ans, on ne peut pas dire, ah bah tiens, ça c'est Bérénice. Non, ça n'est plus Bérénice aujourd'hui. Aujourd'hui, Bérénice, elle est différente. Donc on ne peut pas se fier à l'image que le miroir nous renvoie. C'est trompeur. Par contre, il existe un autre miroir dans lequel on peut se regarder et qui va me donner une image bien différente de moi-même. C'est la parole de Dieu, vous le savez. Pardon. Souvent, la parole de Dieu est appelée un miroir. En tant que chrétien, j'ai donc une identité qui ne se compose pas que de l'image extérieure que j'ai. Mon identité est donc composée d'autre chose. Et ce autre chose se trouve dans la parole de Dieu. Alors, pour résumer, je suis composée de trois parties. J'ai un corps, la partie naturelle, soumise à changement, et qui contient mon âme et mon esprit, qui constituent la partie spirituelle. En hébreu, esprit est traduit par le mot « roua », qui signifie « force de vie », esprit, force de vie. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Roua, souffle, force de vie, souffle de vie. Quand est-il fait mention de l'esprit ? Parce qu'on parle de l'esprit, mais voyons un peu en détail ce qu'est l'esprit. Quand est-il fait mention de l'esprit dans la parole ? Eh bien, dès les premières lignes de la Genèse. Dans Genèse 1, verset 2, déjà on entend parler de l'esprit. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle, le roua, l'esprit de vie de Dieu, se déplaçait à la surface de l'eau. Donc déjà, l'esprit est déjà présent. La terre n'est pas encore formée, Adam n'est même pas encore créé, nous ne sommes pas là, mais déjà l'Esprit de Dieu est là, il est déjà présent. Au moment, bien avant que Dieu ne parle la création du monde, qu'il ne dise que la terre soit, que les cieux soient, l'Esprit était déjà là. L'Esprit était déjà présent avant la création de toute chose. Ensuite, une autre fois plus loin, il est fait mention de cette roue, l'Esprit. L'Esprit a été soufflé en Adam. L'Éternel Dieu, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Il souffla, il roua la vie dans Adam. Et l'homme devint un être vivant. Parce qu'avant de recevoir cette roua, Adam n'était qu'un vase. C'était juste une forme, une figurine d'argile. La vie n'était pas en Adam. Il a fallu que Dieu souffle cette vie. Encore une fois, l'Esprit est présent au moment de la création. Ça n'est plus au moment de la création de la terre, c'est au moment de la création de l'homme cette fois. Et il a fallu que ce roua soit insufflé dans cette figurine d'argile. À partir de ce moment-là, l'Esprit, la vie de Dieu était dans l'homme. Et si on lit les différents chapitres de la Genèse qui décrivent la vie de l'homme en Éden, la vie de Adam et Ève, on peut voir qu'ils marchaient avec Dieu. Ils avaient une vraie relation avec Dieu. Pourquoi ? Grâce à l'Esprit qui était en eux. La connexion avec le Père était parfaite. Elle était au débit, plus que au débit. C'était permanent. C'était grâce à l'Esprit, ils étaient reliés à Dieu en permanence. Ils pouvaient lui parler, lui poser des questions, ils pouvaient communier avec lui en permanence. Adam et Ève étaient donc comme nous, tripartites. Ils avaient un corps, une âme, le même que nous, hein, composé de matière organique, exactement comme nous. Ils avaient une âme avec les mêmes attributs que nous et ils avaient reçu le Saint-Esprit comme nous, aujourd'hui, nous l'avons reçu avec la nouvelle naissance. Donc nous avons beaucoup de points communs en réalité avec Adam. L'Esprit de Dieu qui était en Adam, celui que... À un moment donné, moi, j'enviais cette relation qu'Adam avec Dieu. Je me disais, mais il a une relation parfaite. Tout est parfait dans cette relation. Mais qu'est-ce qui était parfait ? C'était l'Esprit qui était en Adam qui était parfait. L'Esprit de Dieu qui était en Adam. Or, nous, on a reçu ce même Esprit. On va voir ça plus loin. Adam, en réalité, n'avait rien de plus que moi, rien de plus que vous. Nous avons reçu exactement la même chose. La différence, c'est que Dieu est venu et a soufflé en Adam, et nous, on a reçu ce même roua par la foi. Mais c'est exactement la même chose. Nous avons reçu le même esprit, la même quantité, la même qualité d'esprit, exactement la même chose. Considérons les trois parties d'Adam à l'époque, esprit, âme et corps. J'ai découvert qu'en réalité, esprit, âme et corps, ça correspond à un ordre bien précis. On ne dit pas âme, esprit, corps, on ne dit pas corps, âme, esprit, c'est esprit, âme et corps. Pourquoi c'est esprit, âme et corps ? Parce que l'esprit dans Adam avait une telle importance qu'ensuite venait son âme et en dernier lieu venait son corps. Le corps d'Adam avait tellement peu d'importance pour lui, il revêtait tellement peu d'importance qu'il n'y prêtait pas attention. Ils ont même pas réalisé qu'ils étaient nus. Ça n'avait pas d'importance. La partie spirituelle d'Adam était tellement, occupait tellement de place en lui que son corps arrivait en dernière position. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute ? À la chute, Adam a été séparé de Dieu. L'esprit qui était parfait en lui ne pouvait plus rester dans un corps qui avait péché. Donc l'esprit de Adam a été séparé de Dieu. Et là, l'ordre s'est inversé. Tout d'un coup, Adam a réalisé qu'il était nu. Et là, l'ordre s'est inversé. Ça n'était plus esprit, âme et corps, c'était corps, âme, esprit. L'esprit de Dieu arrivait en dernier. Et le corps d'Adam a tout d'un coup revêtu une importance énorme. Il ne voyait plus que lui. Et il s'est aperçu tout d'un coup qu'il était nu. Voilà. L'ordre a été inversé. L'ordre parfait, c'était esprit, âme et corps. À la chute, l'ordre a été inversé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le corps d'Adam est devenu mortel. Dieu avait pourtant interdit de manger de ce fruit-là. Mais Adam l'ayant fait, le corps d'Adam est devenu mortel. Ils ont été séparés de Dieu. Ils ont même été chassés du paradis. Plus de connexion avec Dieu. Un espace vide s'était créé dans cet être tripartite. Et comme toute la loi de la nature veut qu'un espace vide doit être rempli par quelque chose, qu'est-ce qui a rempli la place de l'esprit de Dieu ? L'esprit du mal. L'esprit, le péché est entré dans le corps d'Adam. D'accord ? Je vous ai perdu ou... Non, ça va ? Qu'est-ce qu'il fallait pour remettre les choses dans le bon ordre ? Il a fallu attendre la nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la nouvelle naissance ? Dans 1 Corinthiens 2,15, on peut voir ce qui s'est passé au niveau de notre esprit. C'est celui dont l'esprit a été régénéré, rendu à la vie, né de Dieu par la foi en Christ. Les choses de l'esprit de Dieu lui deviennent accessibles, car sa communion avec Dieu a été rétablie. Donc en fait, à la nouvelle naissance, quand nous acceptons Dieu dans notre vie, comme nous l'acceptons, quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est régénéré. La connexion est rétablie. Et de nouveau, les choses peuvent revenir dans le bon ordre. Esprit, âme et corps. C'est ce qui se passe quand nous naissons de nouveau. Notre esprit est renouvelé. Par la foi, cette foi, mais il est renouvelé. Il est exactement comme Adam l'a reçu à l'époque. C'est la même chose. Nous recevons de nouveau ce roua de Dieu. L'esprit de vie de Dieu qui reprend sa place. Les apôtres, eux, l'ont reçu d'une manière différente. Ils l'ont reçu de Jésus lui-même. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés et ceux à qui vous retiendrez, ils seront retenus. » Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit de Jésus lui-même. Mais c'est la même chose. C'est le souffle de Dieu qui a été donné aux apôtres. Cet esprit qui est renouvelé, nouveau, tout ce qui est passé, et toutes choses sont neuves. On passe littéralement de la vie à la mort. C'est énorme quand on y pense. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? De la mort à la vie, pardon. Pardon. On passe de la mort à la vie. Une nouvelle identité nous est donnée. Ça n'est plus l'identité qui passe par mon corps et ma carte d'identité. C'est une identité qui est attachée à mon esprit. Mon identité corporelle, elle est mortelle, elle est sujette au changement, mais cette identité que nous recevons de la part de l'esprit, c'est Dieu lui-même, elle vient de Dieu lui-même. Et comme toutes ces choses qui viennent de Dieu lui-même, elles sont éternelles. Donc je reçois une identité qui n'est plus mortelle, mais qui est éternelle. Donc ce que je suis maintenant, depuis ma nouvelle naissance, je le serai, je le suis maintenant, mais je le serai à tout jamais. Ce que je suis, ma nouvelle identité, est valable. Il n'y a plus de date de validité sur ma carte d'identité. C'est pour des siècles et des siècles. Je suis renouvelée. J'ai une nouvelle identité spirituelle. Je suis une nouvelle créature en Christ. Pourquoi est-il plus juste de parler d'identité spirituelle que d'identité naturelle? Ben, justement, parce que rien n'est sujet au changement avec Dieu. Quand il vous donne quelque chose, ça n'est pas pour le reprendre, ça n'est pas pour l'amoindrir, ça n'est pas pour le modifier. Quand c'est donné. Et c'est toujours teinté d'éternité. C'est pour ça qu'il est plus important de considérer son identité spirituelle plutôt que son identité naturelle. Elle est stable, elle est fiable, elle est solide, fondée sur le roc. Et elle est gratos. Exactement, elle est gratos. C'est sans condition, on n'a rien à payer. Tout a été payé par Jésus à la croix. C'est un cadeau qui nous est offert, sans condition. Alors qu'avons-nous reçu avec ce roi? Eh bien Galates 5, 22 nous dit exactement ce que nous avons reçu. C'est la liste très claire de nos nouvelles caractéristiques, de notre nouvelle identité. Avec l'Esprit de Dieu, nous avons reçu l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est que amour, joie, paix, patience, bonté. Peu importe l'âge que j'ai, peu importe la couleur de mes cheveux, ce que j'ai reçu, c'est ça. Qui je suis aujourd'hui, c'est ça. En Christ. C'est exactement ce qu'avaient reçu Adam et Ève à l'époque. Rien de plus, rien de moins. J'ai reçu la même chose. Cette identité-là, c'est ma nouvelle identité. Quand on dit « on est une nouvelle créature en Christ », oui, on est une nouvelle créature en Christ. On est une nouvelle créature pleine d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. C'est ça ma nouvelle identité. Éphésiens 1, 13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et ça, c'est énorme. Non seulement on a reçu toutes ces caractéristiques de cette nouvelle identité, mais en plus, ça a été scellé. Votre esprit, une fois qu'il a été renouvelé, il a été scellé. Vous comprenez ce que ça veut dire, scellé? Ça veut dire fermé, scellé avec un sceau, plus rien ni personne ne peut l'ouvrir. C'est scellé. C'est-à-dire, ce nouvel esprit que j'ai reçu, je l'ai reçu jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout du bout, et il n'y a pas de bout en Dieu. Je serai toujours, quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez penser, et quoi qu'il puisse arriver à mon corps terrestre, je serai toujours amour, joie, paix, etc., etc. Parce que c'est ce que Jésus est, et c'est ce que j'ai reçu du Père. Et ça a été scellé. Plus rien ne pourra me le prendre. Plus rien ni personne, aucune situation, aucune personne venant contre moi, rien ne pourra jamais changer cet état de fait. C'est ça la nouvelle identité que nous avons reçue. C'est énorme, c'est énorme. Tout ce que je suis, tout ce qui me caractérise, l'endroit où j'habite, ma famille, mes souvenirs, l'histoire de ma famille, le travail que je fais, la couleur de mes cheveux, le montant qu'il y a sur mon compte en banque, les relations que j'ai ou que je n'ai pas, ça n'a pas d'importance. Ça n'est pas mon identité. Mon identité, elle est là. Et c'est ce que j'ai reçu. Ce que vous avez reçu aussi à la nouvelle naissance, évidemment. Ça a été scellé, c'est figé à tout jamais, au siècle des siècles. Et qu'est-ce que c'est ces caractéristiques-là? C'est la même chose, c'est ce que Christ est, en réalité. C'est ce que Christ est. C'est-à-dire que le jour où nous sommes renouvelés, le jour où nous sommes nés de nouveau, je veux dire, nous sommes comme Christ. Et souvent, on a tendance à l'oublier, ça. Nous sommes comme Christ, je suis comme Christ. Je n'ai rien de moins que lui, vous n'avez rien de moins que lui. Nous sommes comme Christ, point barre. J'ai une nouvelle identité, point barre. Elle est comme la sienne, point barre. Je ne suis plus la même et je ne serai plus jamais la même. Et c'est valable pour vous. Tout est différent. Quand on s'arrête et qu'on considère ça, Christ, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour lui, je suis identique à lui. Vous êtes déjà dit ça? Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? Je suis comme Christ. Alors quand on considère qu'on est comme Christ, ben, le matin on se lève un peu différent, quoi. Ah ouais, le matin on se lève un peu différent. Peu importe la météo, peu importe où on va, peu importe si on a dormi, pas dormi, si on est préoccupé, pas préoccupé, je suis comme Christ. Je me lève, je sors, je suis comme Christ. Je parle à quelqu'un dans la rue, je parle comme Christ parle. Enfin, la vie a une autre couleur, non ? Les choses, toutes mes décisions sont prises d'une manière différente quand je réalise ça. Je suis comme Christ. J'ai son esprit de, j'ai sa sagesse, j'ai son esprit de discernement, j'ai son esprit de conseil, j'ai sa force. J'ai l'esprit de connaissance. Enfin, vous n'avez pas l'impression d'halluciner, là ? Vous saviez déjà tout ça ? Vous aviez déjà réalisé ça ? Moi, je l'ai réalisé. J'avais oublié. Alors certes, esprit à mes corps, c'est un message qu'on a déjà entendu des tas de fois. L'identité en Christ, on avait déjà entendu des tas de fois. Mais juste arrêtons-nous et disons-nous le matin quand on se lève, quand je me regarde dans la glace, je suis comme Christ. Oh, c'est pas énorme ? Peu importe mon corps, peu importe mon âge. Mon corps change, mon âge évolue. Si je considère mon identité charnelle, il y a des tas de trucs que je ne ferai plus. J'ai eu 50 ans, à 50 ans, on commence à dire non, mais le monde dit ça. À 50 ans, on commence à ralentir, on commence à s'organiser différemment. Non. Moi, à 50 ans, je parle à mon corps et mon corps obéit parce que je suis comme Christ. Je prends mes décisions en fonction de cela, pas en fonction de mon âge, pas en fonction de mon corps. Mon corps me dirait qu'il a besoin de tant d'heures de sommeil par nuit ou qu'il a besoin de manger 3 fois par jour. Non, c'est pas ça l'important. Je peux parler à mon corps comme je peux parler à mon âme. Mon corps n'a pas été renouvelé, mon âme non plus, mais mon esprit oui. D'accord ? Et mon corps, c'est juste un vêtement. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Il est une nouvelle créature. Maintenant, on sait ce que c'est cette nouvelle créature. On a mieux compris ce que c'est cette nouvelle créature, non ? C'est celui dont l'esprit a été régénéré, rendu à la vie, né de Dieu par la foi en Christ. Les choses de l'esprit de Dieu lui deviennent accessibles car sa communion en Dieu a été rétablie. Il est enseigné par l'Esprit de Dieu, compris par l'Esprit de Dieu. Ça vous parle ? Alors, juste, je vais terminer par un petit schéma que vous avez sûrement déjà vu. Donc, esprit, âme et corps. Âme et corps. Vous voyez que l'esprit et le corps ne peuvent pas communiquer. Mon corps ne peut pas parler à mon esprit et mon esprit ne peut pas parler à mon corps. Ici, ça passe par l'âme. Moi, je peux parler à mon âme. On a vu que je pouvais parler à mon âme. Donc, ce que je donne comme information à mon âme va pouvoir, ici il y a une zone de connexion, l'esprit est connecté à l'âme et l'âme est connectée au corps. Donc ce avec quoi je vais nourrir mon âme va me permettre d'influer sur ces deux zones-là. D'accord ? Donc si je dis à mon âme, écoute ma cocotte, t'as 50 ans, va falloir ralentir le rythme. Toutes ces histoires qu'on te raconte, la jeunesse, machin truc et tout, il faut ralentir le rythme. Qu'est-ce qui se passe ? Mon corps va obéir. Mon corps va ralentir. Mon corps va se fatiguer. Mon corps va me réclamer plus de repos, moins d'activité soutenue. Mon corps va obéir. Par contre, si je dis à mon âme, je suis une nouvelle créature en Christ, j'ai la force de Christ, j'ai la sagesse de Christ, si je nourris mon âme avec la parole de Dieu, mon esprit va être nourri de la même façon. D'accord ? Donc ce qu'on donne à manger à son âme, à ce avec quoi on nourrit son âme, eh ben, influence le corps. Est-ce que c'est clair? Oui? Voilà. Je voulais juste terminer avec ça. Donc ça, ce sont des schémas que vous avez déjà vus, l'esprit, l'âme, le corps. L'important, c'est de toujours considérer notre nouvelle identité. Notre nouvelle identité, elle est en Christ et elle est spirituelle. Dans Galates, on a la liste de ce que nous sommes maintenant. Ne pas considérer son identité charnelle, parce que ça n'est pas d'elle dont nous tirons la vie. D'accord ? J'ai oublié ce que je voulais vous dire pour finir. Quoi qu'il en soit, voilà. Notre identité, elle est en Christ, elle n'est pas dans notre corps. Notre corps est devenu mortel, on ne peut pas se fier à notre corps. Par contre, l'esprit, lui, on sait où le trouver, il est dans la parole, il est éternel et il est sûr, fiable. Notre identité, elle est en Christ et pas dans le monde, pas dans notre corps. D'accord ? Merci beaucoup.
Merci. Je me souviens qu'à l'école biblique, Kenneth Hagin nous résumait cela en disant « Tous les êtres humains sont des êtres spirituels. » C'est-à-dire que tous les êtres humains sont faits esprits. Parce que tous les êtres humains ont été créés par Dieu. Et lorsqu'un homme et une femme ont une relation, ils donnent un corps. Dieu, si vous voulez, a donné à l'être humain le choix de se multiplier. Quand un être humain, on va être clair, a des relations, il prend le risque de concevoir. Ce qui veut dire que dès que la nature fait son travail, Dieu envoie un esprit dans le corps que les parents sont en train de donner. Ce qui fait la différence, c'est effectivement ou bien notre esprit a la vie du péché en lui, ou il a reçu la vie de Dieu. Quand quelqu'un accepte Jésus, eh bien, nous recevons, nous, êtres spirituels, la vie de Dieu qui chasse la nature du péché en nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, il faut penser, il faut maintenant se rééduquer, rééduquer notre âme pour penser avec la vie de Dieu. Et maintenant, il faut commander à notre corps d'obéir à la vie de Dieu parce qu'il a gardé d'anciens réflexes. Notre âme a gardé, notre intelligence a gardé tous les réflexes de l'inquiétude, par exemple. C'est-à-dire, on entend qu'il y a un problème. Sans Dieu, immédiatement, on s'inquiète. Immédiatement, on laisse la peur venir sur nous. Quand on a reçu la nature de Dieu dans notre esprit, l'Esprit de Dieu est venu en nous. Là, on peut dire, hop là, à notre âme, attends là. Oula, oula, stop. Tu n'es plus sans Dieu. Donc maintenant, tu vas adopter une autre manière de penser. Et comme notre corps obéit à notre âme, hein, comme Christelle l'a expliqué, eh bien notre corps, quand on accepte, quand on a reçu la nature de Dieu, on a la vie de Dieu, on a un gros problème. Immédiatement, on a l'ancien réflexe qui vient de l'ancienne vie, de dire « Ouh là là, ça va mal se passer, on commence à se faire du cinéma. » On dit « Oh, je suis sans espérance. » Eh, peut-être sans espérance, mais pas sans Dieu. Donc, maintenant, tu as une nouvelle espérance. Le fait de changer notre façon de penser affecte notre corps. Et notre corps, au lieu de partir dans la maladie à cause du choc, à cause de la peur, au lieu de s'ouvrir à la vulnérabilité des virus parce que nous sommes pleins de soucis, on dit stop, ça n'est plus comme avant. Aujourd'hui, j'ai la vie de Dieu en plus en moi. Dieu est pour moi. Il a une alliance avec moi grâce à laquelle il a promis de m'aider quand je lui fais appel. Tu sais quoi ? Mon corps maintenant, stop là, arrête de t'agiter. Tu vas manger, tu vas dormir. Tout à l'heure quand Christelle disait, c'est vrai que quelqu'un qui, dans une période de sa vie où par exemple on voyage ou quoi, on a besoin de moins dormir, c'est pas un style de vie, hein, ça doit être juste un épisode, eh bien on peut dire à notre corps, stop là, arrête, tu me suis, tu vas faire ce que je te dis. Et c'est, on n'est pas obligé de s'écrouler, notre corps dit, si j'ai pas dormi, on a mes 8 heures, on dit stop là. Il y a la vie de Dieu, il y a la vie de Dieu qui va dans ce corps, tu vas me suivre. Le temps que j'ai besoin, tu vas me suivre là. Encore, ce n'est pas un style de vie. C'est pour vous dire que le fait que nous soyons un être spirituel qui, au lieu d'être rempli d'une nature, de la... vous savez, l'esprit, c'est une matière. Vous avez cette matière, la moquette. Vous avez une autre matière, le papier. Vous avez cette matière, le métal. Vous avez cette matière, du bois. Vous avez cette matière, les cheveux, vous avez cette matière, la peau. Il existe une autre matière qui s'appelle esprit. Les anges sont des êtres esprits. Dieu est esprit. L'être humain est un esprit. Mais ce qui fait la différence, c'est la vie qui anime cet esprit. La vie du péché ou la vie de Dieu. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous allons passer notre vie à savoir apprendre ce qu'un être humain, un esprit humain, rempli de l'Esprit de Dieu peut faire. On a des capacités illimitées parce qu'on a la nature de Dieu. Comme Christelle dit, on est comme Christ. Ce qu'il faut, c'est accepter de penser sans Christ. Alors, écoutez. Comment ? Comme si nous étions sans Christ. Donc, on arrête de penser comme si nous étions sans Christ. C'est énorme ! C'est énorme ! Et donc, une des raisons pour lesquelles nous venons à l'église, c'est parce que nous voulons apprendre. Alors, je suis capable de quoi maintenant ? Parce que le diable et ses démons, ce sont des êtres spirituels remplis de la nature du péché. Et la nôtre est supérieure à la leur. C'est aussi simple que ça. C'est très facile de se faire obéir par le diable ou par des démons. Oui, on va l'apprendre. Très, très facile. Mais ça, ce que Christelle a partagé avec nous, c'est la base. Vous voulez répéter après moi ? Je suis un être spirituel. Je suis rempli de la vie de Dieu. Le péché n'est pas en moi. Ben non, il ne peut pas. Moi, c'est un être spirituel. Il n'est pas en moi, parce que j'ai la vie de Dieu. On répète, je suis un être spirituel. J'ai une âme. J'ai des émotions. J'ai une intelligence. Et j'ai une volonté. Et j'habite dans un corps. Mon corps n'est pas moi. Mes émotions ne sont pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est l'être spirituel que je suis. Donc quand on dit on adore Dieu, comme tu disais le verset tout à l'heure, hein, on adore Dieu en esprit et en vérité. S'il y en a qui adorent Dieu d'après leurs émotions, je me sens. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois on ressort cet accent-là. Parce que peut-être que les ch'tis ne le disent pas comme ça. Peut-être qu'ils marchent moins par les émotions. Je me sens pas. Oh, je me sens pas, donc... Non, on adore Dieu en esprit. On adore Dieu en esprit. Nos émotions vont suivre. Si elles ne sont pas ce qu'elles devraient être, elles vont suivre. Mais quand nous, les Méditerranéens, ils vivent en fonction de leurs émotions. En fonction de... En plus, ils vivent en fonction du temps. Vous imaginez ? Ils lèvent la tête, ils voient des nuages, les émotions, elles passent... 3 étages plus bas, et c'est terminé. Il n'y a plus personne. Et alors là, ça se voit même sur le visage. C'est horrible. Et en Bretagne, nous, on ne peut pas vivre par nos émotions. T'as vu comme j'ai retombé ? Je suis retombée sur mes... Hein ? On ne peut pas vivre par en fonction de ce que l'on voit, hein, du ciel. Mais ceci dit, si on se rappelle cela... On va se rappeler que quand on lit la Bible, on nourrit notre être intérieur. Si vous lisez votre Bible pour attiser votre curiosité, pour vous nourrir intellectuellement, à un moment, vous allez être ennuyé. Ça va à vous. Ça me barbe. Maintenant, si vous dites, c'est quoi ? Peu importe, ça barbe mon intelligence. Ça ne stimule pas mes émotions. Vous n'avez plus envie de lire votre Bible. Vous la lisez quand même. Pourquoi ? Parce que ça vous nourrit, vous, être spirituel. La différence. Allez, on arrête. On a presque fini. On va terminer en célébrant le Seigneur en prenant la Sainte Cène. J'étais en train de relire ce passage de la parole de Dieu. Dans laquelle, vous savez, la Bible nous dit que les Hébreux ont traversé la mer Rouge. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. La Bible nous précise que le jour, c'était sous la forme d'une nuée qui les protégeait. Et la nuit, sous la forme d'une colonne de feu. Imaginez que toute la ville de Nice, c'était un chiffre beaucoup plus important, toute la ville de Nice est prête à traverser la Méditerranée. On est au port de Nice, là où il y a le bateau, le ferry qui nous amène en Corse, mais il n'y a plus de bateau, il y a des armées ennemies qui sont derrière nous, et on a besoin d'échapper à ces problèmes. Vous savez ce qu'on nous dirait dans l'Église ? On nous dirait « Dieu va t'aider si tu as tout bien fait ». On nous dirait « Dieu va t'aider si tu as été à l'église ». C'est bizarre que ce soit un pasteur qui le dise, mais c'est vrai. On nous dirait « Dieu va t'aider si tu as prié suffisamment ». Évidemment qu'il faut lire la Bible parce qu'on apprend qui on est. Évidemment que l'on prie parce qu'on aime communiquer avec Dieu. Mais on est tous au port de Nice. Il y a les armées romaines, italiennes. Allez, on va faire plaisir aux Italiens parmi nous, hein. Il y a les armées italiennes qui sont, et la seule chose, c'est qu'on se trouve devant la mer de Méditerranée, il n'y a plus de bateaux au port, il n'y a plus rien, il y a juste le bruit des chars italiens que l'on entend. Et la Bible dit que la colonne de feu, écoutez bien ce que je vais vous dire, la colonne de feu les accompagnait, ou bien la nuée. C'est-à-dire Dieu était avec eux. J'ai une question à vous poser. Il y avait à peu près 1,5 million, 2 millions de personnes assemblées au port de Nice, devant la Méditerranée, en train de dire « Seigneur, sors-nous de ces problèmes. Fais en sorte que cette armée dont j'entends le bruit, fais en sorte, Seigneur, qu'elle ne m'écrase pas. Fais en sorte qu'elle ne me tue pas. Fais en sorte que je ne disparaisse pas sous le poids de ces problèmes. » J'ai une question à vous poser. Croyez-vous que ces 1,5 million personnes, il y a quoi, 600 000 à Nice avec les environs, donc on va dire, allez, on va dire 3 fois la ville de Nice rassemblée au port de Nice. Croyez-vous que parmi, et Dieu était avec eux, croyez-vous que parmi toutes ces personnes, tout le monde avait tout bien fait. Je répète, croyez-vous que parmi toutes ces personnes, tout le monde avait bien fait? Et pourtant, Dieu était avec eux, parce qu'ils avaient une alliance. Et pourtant, Dieu a fait traverser la mer morte à tous rouges. Tout le monde a traversé la mer Méditerranée. Qu'ils aient tout bien fait ou qu'ils n'aient pas tout bien fait, ils ont crié à Dieu et Dieu les a fait sortir de leurs ténèbres. Et la voix de l'ennemi a dû se taire. Alors nous allons prendre le pain et le vin et je vais vous encourager, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous soyez, quelles que soient les armées ennemies qui vous hurlent dans les oreilles, tu n'y arriveras pas, tu ne paieras pas ci, tu n'as pas de futur, tu ne pourras pas faire cela, jamais toi, c'est terminé. Dites-vous bien, tu sais quoi ? Dieu va m'aider, non pas en fonction du bien que j'ai fait ou du mal que je n'ai pas fait, mais parce que je place ma confiance en Jésus-Christ qui, lui, a tout bien fait. Amen. La Bible nous dit que tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, tous, sont invités à prendre ce repas. La Bible nous invite à ce que pas une personne ne se prive de ce moment de communion avec Dieu. Vous savez, je sais que quelquefois dans les églises, on dit « Ah, tu sais, si tu as fait ci ou tu ça, tu n'as pas le droit de prendre le pain et le vin. » Je veux juste vous demander, montrez-moi dans la parole de Dieu où c'est écrit. Montrez-moi, parce que ça n'est pas écrit. Ça, c'est une manière légaliste de lire les Écritures. Ça n'est pas écrit. Ben oui, ben Zoé est ici parce qu'elle a compris qu'elle va avoir quelque chose. Tu es venue chercher cela, hein? Bien sûr. Moi, je veux que les enfants soient habitués à se sentir libres de s'approcher de la table du Seigneur. On va faire venir les enfants parce que la Bible nous dit que c'était un agneau par famille. Dieu invite les familles. Alors, les enfants vont s'approcher et puis tous ceux qui souhaitent prendre le pain et le vin, eh bien, venez vous servir. Approchez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde va s'approcher.